7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, rencontre avec un artiste russe engagé, exilé en France depuis peu car militant anti-Poutine pour le moins radical.
Ah oui, vous allez comprendre pourquoi. Piotr Pavlansky, c'est son nom, est né à Leningrad il y a 33 ans et qui a surgi sur la scène de l'art politique russe à Moscou en juillet 2012. Premier fait d'armes médiatique dans sa dénonciation du régime Poutine. Une photo, simple portrait en très gros plan, lui, la bouche cousue de gros fils rouges, sa façon extrême de soutenir les Pussy Riot, et vont suivre comme cela d'autres actions artistico-politiques, d'autres photoshops dont certaines ont fait le tour de la planète. Piotr, complètement nu, enroulé dans des fils barbelés. Piotr, toujours nu, se clouant le scrotum sur les pavés de la Place Rouge à Moscou. Ou encore Piotr, toujours nu, grimpé sur le mur de l'Institut psychiatrique Zerbski à Moscou, en train de se couper le lobe de l'oreille droite. Alors qui est-il exactement? Que veut-il exactement? Eh bien c'est ce qu'on découvre dans le cas Pavlansky, la politique comme art, titre de cet essai sous forme d'entretien avec l'artiste qui vient de paraître aux éditions Louison. Et on a pu rencontrer Piotr il y a quelques jours ici à Inter. Première question que je lui ai posée, se considère-t-il d'abord comme un artiste ou comme un militant politique? Réponse.
Non, il est certain que je ne suis qu'artiste et en tant qu'artiste, je fais de l'art politique. Je suis persuadé que pour avoir une présence politique, il est largement suffisant de faire de l'art. Il ne faut pas que l'artiste fasse séparément de l'art, d'une certaine manière, disons pendant la moitié de sa journée, et puis qu'il consacre le reste de sa journée à ses activités politiques ou civiques. Parce que les deux sont des choses inséparables. Il est impossible que l'une soit un hobby et l'autre son métier, quel qu'en soit l'ordre. Il y a la vie de l'artiste qui est indissociable du contexte politique.
Voilà, art et politique indissociables. Mais pourquoi alors passer par cette violence extrême? Pense-t-il que s'il ne se fait pas mal, le public ne va pas réagir, va rester indifférent? Piotr Pavlansky.
Je ne me fais pas de mal du tout. Ce que je fais, c'est de démontrer la situation dans laquelle se trouve aussi bien la société russe dans sa totalité, en tant que corps social, et d'un autre côté, chaque individu parmi ceux dont cette société est composée. C'est une situation qui existe réellement, et les gens la vivent en Russie, mais la vivent de manière dispersée. Chaque jour, une personne sera confrontée à ce genre de problème, ce ne sera pas facile pour elle, elle pourra peut-être avoir mal à certains moments, mais étant donné que ce n'est pas une dose concentrée, tout le monde pense que c'est quelque chose de naturel, quelque chose d'évident. Alors que moi, je formule ce qui se passe avec l'individu en particulier et la société en général.
Et on en vient justement au but politique et intellectuel. Que cherche-t-il à montrer, à dénoncer?
Tout d'abord, je voulais démontrer dans quelle position se trouve l'humain et la société dans ce régime. C'est une chose. La deuxième, c'est que ce qu'il y a de plus terrifiant, de plus monstrueux, c'est le fait pour l'État d'avoir pris le contrôle total sur tous les domaines de la vie de l'individu. La raison pour laquelle nous avons dû quitter la Russie et étions contraints de demander l'asile politique en France, c'est le fait qu'en Russie d'aujourd'hui, le système de délation est apparu à nouveau. La délation a été la méthode utilisée pour nous soustraire au contexte russe. Ces méthodes permettent à l'État d'avoir un contrôle total sur toutes les sphères de la vie d'un individu et permettent de le surveiller, le contrôler et utiliser si besoin les informations pour détruire la vie d'une personne, pour débarrasser de quelque chose qui dérange le régime.
Voilà, délation généralisée, censure, répression, propagande permanente, tout cela sur fond de nationalisme haineux qui ressurgit. Alors comment qualifie-t-il cette Russie d'aujourd'hui qu'il vient de fuir? Réponse.
La Russie a un système de pouvoir avec une verticale très rigide. La Russie a recréé le système de délation. La Russie a déjà établi un contrôle total sur toutes les sphères de la vie d'un individu. Donc, quelles que soient les choses que l'État essaie de faire pour se montrer en bien dans un contexte de politique internationale, les choses que fait la Russie sont évidentes à tout le monde. Elle annexe les territoires appartenant à l'Ukraine, elle lance la campagne en Syrie. La Russie est vraiment un pays qui reste gouverné par des idées chauvinistes et impérialistes. Par contre, je ne sais pas comment nous pouvons désigner ce régime et les processus qui sont à l'œuvre. Je pense que trouver un terme ne devrait pas poser problème, mais l'important, c'est de comprendre ce qui se passe.
Et pourtant, précisément, Vladimir Poutine, on le sait, a été triomphalement réélu président en 2012, comme si l'opposition russe n'existait pas. Pourquoi ? Eh bien, réponse toute simple.
Je dirais qu'il n'y a aucune raison de croire que Poutine ait été élu démocratiquement. Poutine n'a pas d'opposant réel. Il n'y a qu'un seul parti politique important en Russie aujourd'hui, Russie unie, avec quelques satellites qui font semblant d'être des partis distincts, voire semblant de faire partie de l'opposition. Mais en réalité, la plupart d'entre eux sont des entités dépendantes de Russie unie, même s'ils défilent sous d'autres bannières. C'est tout la même chose. Poutine n'a pas de vrai opposant.
Et pour finir, je lui ai demandé ce qui, à ses yeux, pourrait faire que la majorité des Russes ouvre les yeux et lâche Poutine. Est-il encore optimiste, Piotr Pavlansky?
Je ne sais pas ce qu'il doit se passer en Russie pour que dans la société ou ce qu'il nous en reste, car tout ce qui est constitué cette société, les personnalités, beaucoup d'entre elles ont été incarcérées ou ont dû quitter le pays. Nous avons quelques marginaux, surtout les couches de la population qui se base sur l'idée, qui base leur idée sur ce qu'ils entendent à la télé. Et je ne sais pas ce qui doit se passer pour que les yeux s'ouvrent. Nous avons pu voir que tous les événements, quoi qu'il se passe même à côté des gens ou ailleurs dans le pays, le réflexe sociaux sont très faibles. Je ne pense pas qu'il y ait de l'optimisme vis-à-vis de la Russie. J'étais peut-être optimiste il y a 4 ans, mais quand je vois ce qui s'y passe maintenant, cela ne laisse pas une seule miette d'optimisme en moi.
Voilà, pas rose, hein. Piotr Pavlansky, donc artiste russe, radical, radical dans son engagement anti-Poutine et ses actions artistiques, à découvrir donc plus en détail dans le cas Pavlansky, la politique comme art, c'est aux éditions Louison.
Et direction maintenant les États-Unis, Michael, avec les suites du scandale Flynn.
Et scandale qui prend de l'ampleur. Alors pour rapidement vous resituer les choses, Michael Flynn a donc dû démissionner lundi soir de son poste de conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Sa faute, avoir évoqué les sanctions imposées à la Russie avec l'ambassadeur russe lui-même. Et alors que Flynn n'avait encore aucune fonction officielle dans l'administration présidentielle, formellement interdit par la loi américaine, ça c'est le point de départ. Bonsoir Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Mickaël.
Alors depuis cette première révélation, Frédéric, d'autres ont suivi et qui nous ramènent très en arrière dans la campagne de Donald Trump.
Oui, période différente, enquête du FBI, à chaque fois les questions posées dans les deux cas disent la gravité du sujet. Dans l'affaire Flynn, il s'agit de savoir en fait si Donald Trump a demandé à son conseiller de sécurité nationale, avant même son investiture, de rassurer les Russes sur ses intentions en matière de sanctions. Et là, dans ces révélations du New York Times, la question c'est, est-ce que l'entourage du candidat Trump avait discuté avec les Russes du piratage de la campagne Clinton ? Pour le moment, dans le contenu des échanges, rien ne vient le démontrer, mais une chose est frappante, c'est la fréquence des contacts pendant l'été dernier, au moment où le FBI commence à enquêter sur cet espionnage russe et où Donald Trump, sur le ton de la semi-plaisanterie, suggère publiquement à Moscou de retrouver et de dévoiler les emails manquants de la candidate démocrate. Les agences de renseignement parlent d'échanges constants pendant cette période. Alors un seul nom est cité, celui de Paul Manafort, à l'époque directeur de campagne de Donald Trump. C'est un homme qui fait des affaires avec la Russie. Il dément Toute collusion, idée absurde, je n'ai jamais parlé avec des agents russes, en toute connaissance de cause, précise-t-il quand même. À la Maison-Blanche, on reste sur la ligne. Aucun contact avec Moscou pendant cette période. Faut se souvenir quand même que Paul Manafort a été brutalement écarté à la fin de l'été.
Oui, mais le débat désormais aux États-Unis, hein, c'est donc Trump et les services de renseignements américains.
Pour faire simple, on peut même dire que la guerre est repartie et que les mots du président américain sont forts sur son compte Twitter. Il dénonce des informations illégalement fournies par le FBI ou la NSA, anti-américains, ajoute Donald Trump, qui suggère qu'il s'agit de méthodes habituellement de la Russie. Lors de précédentes révélations, il avait même parlé de méthodes nazies. Il est vrai que les enquêtes du FBI ont un côté poupée russe avec trois volets plus ou moins directement liés, l'affaire Flynn, la période campagne électorale et le dossier russe sur Donald Trump. Le président américain n'est pas loin de considérer qu'il s'agit d'un complot mené par des gens qui le considèrent comme illégitime. Nous voilà de retour à une certaine période de la guerre froide, sauf que le FBI n'est plus dans le rôle du procureur, mais de l'accusé. Toujours est-il que la confusion au sein de la Maison-Blanche et que ce conflit ouvert avec les agences de renseignement crée un climat délétère. Un général très respecté parlait ainsi hier de chaos qui pouvait être dangereux pour la sécurité nationale.
Merci Frédéric Carbone en direct de Washington. On vous retrouvera à 19h pour un tout autre sujet et on va reparler de l'affaire Flynn dans 4 minutes avec Julien Baldacchino.
Et après Washington, Michael, on part maintenant à Tunis où le grand débat du moment concerne la future loi sur les stupéfiants.
Oui, pour comprendre le contexte, écoutez simplement ces 9 petites secondes.
Je vivais une vie tranquille jusqu'à que j'étais chopé par des flics en civil. Tac, tac, ils m'ont fouillé, ils ont trouvé une feuille à rouler, et c'est parti.
Et c'est parti, nous dit Seif, qui, comme des milliers d'autres jeunes Tunisiens, a été condamné à 1 an de prison, 1 an pour avoir fumé 1 joint de cannabis. Car c'est la loi aujourd'hui en Tunisie. Toute personne reconnue coupable d'avoir consommé 1 fois de la drogue écope au minimum 1 an ferme. Loi très répressive, adoptée sous le régime Ben Ali, et qui permet parfois à la police de faire pression sur des artistes, des rappeurs, des blogueurs par exemple, considérés comme gênants pour le pouvoir. Résultat, la majorité des détenus tunisiens sont aujourd'hui incarcérés pour une simple et modeste affaire de drogue. Bonsoir Justine Fontaine, correspondante d'Inter à Tunis.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors cela concerne un peu plus d'un tiers des prisonniers du pays, vie bouleversée le temps d'un joint.
Oui, et c'est le cas de Saïf Matmati, 26 ans, qu'on a entendu au début du reportage. Il était étudiant, avec un ami, il venait de créer une entreprise. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec des prisonniers de droit commun et des hommes accusés de terrorisme, tous ensemble dans une cellule surpeuplée.
100 personnes, c'est la moyenne, quoi. C'est, on dirait, elle est vide. Les gens dorment 3 par 2 matelas, toute la chambre, ça c'est les normes.
Saïf est finalement resté 7 mois derrière les barreaux. Comme beaucoup d'autres, il a été relâché lors d'une grâce présidentielle, mais depuis il ne peut plus travailler à cause de son casier judiciaire.
Et conséquences très lourdes aussi, hein, Justine, pour les familles.
Absolument, surtout pour sa mère qui devait subvenir du coup seule aux besoins de toute la famille et de son fils en prison.
Une fois par semaine, ma mère vient avec, elle rapporte plein de bouffe pour moi, elle rapporte de l'argent pour que j'achète des cigarettes, qu'elle a fait déjà 8 ou 9 heures de travail après, elle prend le 2 ou 3 bus pour arriver en prison. Je sentais qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert déjà.
Saïf raconte aussi que rien que dans sa rue, en banlieue de Tunis, 7 jeunes ont déjà fait de la prison à cause du cannabis.
Et justement, depuis la révolution de 2011, la société civile tente de s'organiser, enseignants, avocats, artistes, rappeurs ou blogueurs essentiellement, qui appellent à supprimer cette peine automatique d'1 an de prison, non à la peine planchée, Justine.
Oui, Mickaël, et un avocat aussi en a fait son principal combat, il s'appelle Razim Rabet. Il a défendu justement plusieurs rappeurs et blogueurs incarcérés à cause de cette loi sur les drogues.
On peut citer l'exemple du rappeur Clay BBG qui a été arrêté aussi parce qu'on sait que Clay BBG particulièrement et le rap en Tunisie a toujours un discours anti-système et donc on sent que la police utilise cette loi à chaque fois pour menacer et pour terroriser les voies libres.
Et le débat a finalement été mis sur la table pour la première fois officiellement lors de la campagne électorale de 2014. L'actuel président avait promis de réviser cette loi sur les drogues. Justine, où en est-on aujourd'hui, 2 ans et demi après ?
Eh bien, Mickaël, un projet de loi est en débat en ce moment, à l'Assemblée, en commission. Mais pour l'instant, difficile de dire à quoi cela aboutira. Hein. Ager Benchek Ahmed est membre de la commission parlementaire concernée. Il y a 6 mois seulement, elle était encore contre la dépénalisation. mais elle a changé d'avis.
Cette loi, en fait, qui est très répressive, n'a pas donné les effets escomptés. Il faut aujourd'hui alléger les sanctions et enlever la prison pour les jeunes qui utilisent les drogues à usage personnel, mais augmenter les peines pour les dealers, les trafiquants et surtout les contrebandiers sur les frontières.
Cela dit, Mickaël, assez peu de parlementaires défendent ouvertement un avis similaire au sien. D'ailleurs, l'un des points d'interrogation sur ce sujet, ce sont les islamo-conservateurs d'Ennahda. Pour l'instant, le parti majoritaire à l'Assemblée n'a pas officiellement décidé de sa position sur la question.
Et réponse dans quelques semaines ou quelques mois. Merci Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Tunis. Et Nicolas, à demain.
À demain, Mickaël.